parlé principalement, la semaine dernière des conditions. Quand on a amené un guet par un shliar, quand on faisait passer un guet par un shliar, ça veut dire par un émissaire. Donc on a dit que, puisqu'on est, on peut pas avoir la garantie que le bed-din de l'endroit dans lequel le shliar nous amène, si par exemple c'est un Lyonnais qui même, si c'est un Lyonnais qui veut divorcer sa femme qui est à Paris. Donc on n'est pas, on sait pas nous si le bed-din de Lyon est sérieux ou pas. Donc on a dit qu'il y avait des enquêtes que le bed-din faisait à Paris pour s'assurer, d'accord, il posait des questions au shliar, et que par ces questions-là, on s'assurait que le guet avait été fait en bonne et due forme. Donc, après on était rentré à la fin de la Mishnah Aleph, on a posé la question, on avait dit jusqu'à combien on considère que, jusqu'à combien autour des Eretz Israël ou autour d'une ville sérieuse, on considère que les villes autour ont un bedin sérieux. Donc par exemple Paris, si j'avais dit Paris, je dis bon, si le bedin à Paris il est sérieux, on considère que les bedin qui sont en Île-de-France, ils sont aussi sérieux. Ça c'est évident. Après on avait posé la question, on avait dit mais jusqu'à combien que tu vas t'éloigner, tu considères que les bedin qui sont autour d'une ville sérieuse seront eux aussi sérieux. Donc on a vu plusieurs avis dans la Mishnah Aleph, d'accord ? On avait plusieurs avis dans la Mishnah Aleph. On avait un premier avis qui avait dit que c'est carrément d'un pays à l'autre. Ça veut dire que, un avis qui a dit que si, par exemple, le bed-in de Paris, il est sérieux, on considère que tous les bed-in de la France sont sérieux. Un autre qui avait dit non. C'est de ville à ville. Ça veut dire que si une ville, dans une ville, c'est sérieux, c'est pas forcément que dans l'autre ville, c'est sérieux. Et il y avait un troisième avis qui était Rabbi Shimon Gamliel qui a dit que carrément, c'est même pas de ville à ville. Il a dit même si dans la, même si on a la même ville qui appartient à deux gouverneurs, comme c'était fréquent à l'époque, d'accord, on avait la même ville qui était coupée en deux, eh ben, ce qui est, le bed-in qui marche dans une ville, c'est pas pour autant que le bed-in de l'autre partie de la ville sera OK.
Vous avez
la question, elle est bizarre.
Il y a plusieurs exemples.
Ouais, me choque un petit peu. Parce ouais. Que un bed-in, où il se trouve, il a la même valeur.
Bonne question.
Ça veut dire quoi? Que dans un endroit il est bien et dans l'autre endroit il est.
Parce que là, on fait une réalité. Là, c'est une réalité qui s'est passée après la destruction du Beth Amikdash. Une réalité qui avait qu'il y avait beaucoup de bed-in. Qui connaissait bien les dynimes de kiddushin, de mariage, mais qui connaissait pas à 100% les dynimes de divorce. Bonne question, parce que le commentaire pose d'autres questions. Donc, il croyait qu'il connaissait, mais il connaissait pas, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a des livres de halakhot, que tout est écrit. À l'époque, tout se passait à l'oral. C'était un vrai problème. Donc c'est pour ça que, on était obligé d'enquêter à chaque fois pour s'assurer que le bedin connaît. Malheureux, mais c'était comme ça à l'époque. Donc aujourd'hui, on a moins ce problème. Bah, au Hachem, aujourd'hui, dans tous les pays, aujourd'hui, on fait attention, les halakhot de Gittin, c'est sérieux.
Oui, mais voilà, Copernic.
Ah oui, bon. Alors, Rabbi Yehuda Omer. Donc là, on a Mishnah Bet. Oui. Mishnah Bet, c'est page 2. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, « Mais rekem la Mizrach, ve rekem ka Mizrach. » Donc, il dit comme ça. Il dit que de rekem, donc rekem, c'était une ville donc, qui se trouvait au Mizrach, ça veut dire à l'est des restes d'Israël. Donc, « Mais rekem la Mizrach. » Rekem, c'est une ville qui se trouve en Israël. Il y avait d'autres villes qui se trouvaient après Rekem. Ça veut dire que c'était une ville qui était proche de la frontière en Israël, mais c'était pas vraiment la frontière. Rabbi Yehuda, il nous dit que dès qu'on dépassait Rekem déjà, on considère comme si qu'on est en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu considères qu'en Eretz Israël, les Beth Din sont compétents, mais à partir de Rekem, on considère comme si que c'est déjà plus, c'est déjà des ignorants. Je sais pas, c'est comme si aujourd'hui je dirais, il y a une ville qui est à 50 km de la frontière, je dis à partir d'ici, on considère déjà que c'est des ignorants. Vers Rekem Kamizrach, et Rekem même, la ville de Rekem même, est considérée comme si qu'on était en dehors des Eretz Israël. Mais Ashkelon, la Darom, vers Ashkelon, Kadarom. Voilà, donc Ashkelon, qu'on connaît. Donc Ashkelon, c'est considéré comme si c'est le sud, d'accord? Et vous savez très bien, quand vous voyez une carte, vous savez très bien qu'Ashkelon, c'est pas la ville qui est la plus au sud. Il y a des villes encore. On voit que selon Rabbi Yehuda, Ashkelon, Kadarom, Ashkelon, c'est déjà considéré comme le sud, ça veut dire que depuis déjà la ville d'Ashkelon,
c'est la dernière.
Il y a des petits villages encore. Il y a des petits villages. Il ne faut pas oublier que Gaza à l'époque, c'était Israël, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Donc selon Rabbi Yehuda, déjà à partir d'un guet qui vient déjà à partir de Ashkelon, si, c'était peut-être pas tout, mais c'était. Donc selon Rabbi Yehuda, un guet qui arrive d'Ashkelon déjà, on enquête. On considère que c'est pas un guet israélien à 100%. Pas un guet auquel on fait confiance. Ensuite, Meako Latsafon, Veako Katsafon. D'accord? Donc deux Ako c'est quoi?
Saint-Jean
d'Acre. Ouais, je voulais pas dire le mot, c'est pour ça. Bon. Alors, donc de Ako, donc c'est Acre.
Rabionan. Saint-Jean, c'est Rabionan.
Rabi Yochanan.
Bah oui.
Rabi Yochanan de Ako. Donc, Meako, la Tzafon, Veako, Katsava. Donc, pareil, à partir de Ako, on considère qu'on est en dehors de la Tisraël. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Ako, Keret, Israël et Gitin. Rabbi Meir dit non. Il dit, certes, c'est vrai qu'à partir de Ako, on considère qu'on est en dehors d'Eret Israël. Ça veut dire qu'il faut enquêter sur les Gitin qui arrivent, sur le Get qui arrive, sur les actes de divorce. Mais Ako même, selon Rabbi Meir, est considéré comme une ville sérieuse. Donc, ça, en vérité, c'est pour conclure ce qu'on a expliqué dans la Mishnah Aleph. Maintenant, on passe à un nouveau sujet. Mishnah Gimel. Alors, Mishnah Gimel, on va reprendre donc un concept qu'on a pris dans la Mishnah Aleph. On avait dit que quand on amène un guet d'un district différent, ou d'un pays différent, ou d'une ville différente, on a dit que, donc imaginez-vous que le mari est à Paris, et qu'il va envoyer un guet à sa femme qui se trouve à Lyon. Ouais, donc comment il va l'envoyer? Lui-même il va pas aller, il va envoyer un shliach. Il va envoyer quelqu'un à sa place qui va aller pour donner le guet. Donc cette personne-là va se présenter au Bedin de Lyon, très bien, et il va se présenter au Bedin de Lyon, il va dire, le guet a été écrit devant moi, il doit dire, le guet a été écrit devant moi, et le guet a été signé devant moi. Très bien. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que par la suite, peut-être que le mari qui est à Paris, il va dire, j'ai jamais envoyé de guet. C'est du pipeau, j'ai jamais envoyé de guet.
Il est témoin.
Ou alors il regrette.
Ah, attendez, il n'y a pas de témoin, c'est qui? Il n'y a pas de témoin, là.
Le Bedin,
il a eu quelqu'un qui est venu, qui a dit, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit, le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi, mais c'est un témoin. D'accord.
Mais quand il dit au Bedin, je viens pour un tel.
Faux contrat, on peut faire le faux contrat.
Ils ne prennent pas des...
Ben non, il n'y a pas. C'est un émissaire.
Ah, mais tout le monde peut se...
Vérification, on l'a vérifié, c'est un bon contrat.
Il n'y a pas de téléphone, hein.
Et qu'est-ce qu'on fait? D'un autre côté, c'est facile, d'un autre côté, on peut pas laisser une femme à Gouna. On peut pas laisser une femme comme ça. Déjà, on a réussi à obtenir que son mari la divorce, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on va parler dans la Mishnah ici. Donc, Ameviget, Beret Israël. D'ailleurs, en passant, c'est important de le rappeler. Le shliar qui a amené le guet, celui qui amène le guet, ça veut dire l'émissaire qui amène le guet, il aura jamais le droit de se marier avec
Exactement.
La femme qui va se divorcer.
Parce ça sent l'affaire.
Sinon, c'est l'arnaque.
Il a vu l'année dernière, elle est jolie, je vais dire que son mari l'a divorcé.
Voilà, vous l'avez compris.
Donc, voilà, c'est la biche.
Bon. Ça va de soi, mais il faut le dire quand même.
Ah, ça bat de soi, comme il disait.
Ameviget, Beret Israël. Donc, une personne qui amène un guet en Eret Israël. Donc quand on amène un guet en Eret Israël, on n'a pas besoin de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que tous les Bet Din en Eret Israël sont sérieux. À part les limites qu'on a dit dans la Mishnah précédente. Donc Akko, Rekem, Ashkelon, etc.
Les limites.
Mais on considère que dans Eret Israël même, de Jérusalem à Tel Aviv par exemple, on considère que... On pose pas de questions.
Je peux poser une question?
Oui. Oui.
C'est quand même quoi de dire on accorde la conscience à un endroit pour un moment donné et là on l'accorde à Ditam Eternam quoi.
Non, vous avez raison, c'est pas Ditam Eternam, c'est une réalité à l'époque.
Oui, c'est ça. Mais
comme M. Bissou nous dit, aujourd'hui un Bedin de Tel Aviv, il faudrait poser. Bon,
voilà.
Non, oui. Il est sérieux quand même, Bedin de Tel Aviv. Non, sérieux, le Bedin de Tel Aviv, il est sérieux. Oui, non, parce que nous, quand on entend Tel Aviv, on dit bon.
Sur des plages, etc.
Donc, Im Yashalav Orim. Très bien. Si maintenant, dans la question que je vous ai posée, si maintenant, sur ce guet, on a des Orim, des contestataires. Ah, c'est-à-dire qu'on a fait le guet, on a divorcé la femme, d'accord? On a un émissaire qui vient, il dit voilà, je viens de la part du mari de Jérusalem, on est arrivé à Tel Aviv, on pose pas de questions, très bien monsieur, on divorce tout de suite. Très bien, le guet est un bon guet. Quelques temps plus tard, le mari il vient, il dit mais j'ai jamais divorcé ma femme. J'ai jamais donné ce contrat-là.
C'est quoi cette histoire?
C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème.
Et elle s'est remariée. Attends.
Elle, peut-être qu'elle s'est remariée, elle a eu des enfants, et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, c'est cool.
Bon, disons qu'elle ne s'est pas remariée, mais elle ne veut plus se marier. Elle dit, ah, non, moi je suis divorcé, ça y est.
Et s'il veut jouer le jeu, là, il dit, bon,
alors,
elle s'est remariée, je vais dire
qu'elle s'est remariée. Il y a Shalav Orerim, s'il y a des contestataires, Itkayem Bechotmav. On va devoir, Itkayem, c'est-à-dire on va devoir maintenir le guet, Bechotmav, par ceux qui l'ont signé. Ça veut dire qu'on va devoir mener une enquête pour aller chercher les signataires de ce guet. Et s'ils sont à Jérusalem, et ben on va aller jusqu'à Jérusalem, on va chercher les témoins de ce guet. On va les chercher. C'est-à-dire, en d'autres termes, on considère que le guet est bon, et si le mari n'est pas d'accord, on dit ok, pas de problème, vous n'êtes pas d'accord, on va aller chercher à Jérusalem les témoins, et on va chercher les témoins qui ont signé. S'ils sont morts, on verra après. Hein, c'est possible, ils sont morts.
On prend celui qui a été missionné par le mari, c'est ça?
Oui.
Les témoins de...
Non, les témoins qui ont signé sur le guet.
Mais qui étaient présents... Quand l'émissaire, il a...
Exactement, qui était présent quand l'émissaire a pris le guet. D'accord. Non, pas quand l'émissaire a donné le guet.
Ça, c'est comment?
Alors, posez-moi une question, M. Daniel. Il y a deux témoins. Ouais. D'accord? Il y a ici deux groupes de deux témoins. Il y a deux témoins qui, il y a un monsieur qui veut divorcer sa femme qui est à Jérusalem. Sa femme est à Tel Aviv.
C'est ce qu'on dit.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là? Il va venir au Beddin de Jérusalem. Il va amener deux témoins.
Le mari lui-même?
Écoutez bien. Le mari lui-même. Il va amener deux témoins. Dans lequel il va dire, moi, un tel, je divorce ma femme. Ouais. Deux témoins. Les deux témoins vont signer. Tout ça va se passer devant un shliach, devant un émissaire qui sera témoin. À Jérusalem. Ensuite, cet émissaire-là, monsieur Chronopost, d'accord, il prend sa moto, il prend ce guet-là, il amène au Beddin de Tel Aviv. Il arrive à Tel Aviv, on convoque deux témoins, d'accord, et il dit, voilà, j'ai assisté au moment où on a écrit le guet et on a signé le guet.
Alors, si les témoins doivent venir,
écoutez
alors.
Bien, non, on convoque la femme. Et on convoque deux nouveaux témoins pour certifier que le guet a bien été donné à la femme.
D'accord.
Donc deux témoins à Jérusalem, deux témoins à Tel Aviv. Si maintenant, donc les deux témoins à Tel Aviv, on les a eus, ça on sait qu'on les a eus. Maintenant, ce que le problème, c'est que le mari, il dit, il vient de Jérusalem, il dit, moi, j'ai jamais donné ce contrat-là. C'est du pipeau. Vous avez vu un contrat, c'est du pipeau. Qu'est-ce qu'on fait? On doit retourner à Jérusalem.
Remoto.
Et on doit chercher les deux témoins qui ont signé sur le guet. On va aller chercher le témoin, on leur dit, messieurs, est-ce que vous vous rappelez d'avoir signé sur ce guet?
Pas du tout, c'est quoi ce truc-là?
Effectivement, s'il n'y a pas du tout, s'ils sont morts, etc.
Ou alors il y a eu un faux.
Le guet est faux.
Est annulé.
Donc, imiashalav orim, itkayem bechotma. Si il a donc des contestataires, itkayem bechotma, comme on a dit, on devra maintenir le guet bechotma par ceux qui l'ont signé. Ça veut dire que la parole de l'émissaire vaut rien. La parole de l'émissaire est valable tant qu'il n'y a pas de contestation. Tant qu'il n'y a pas de contestation, et qu'il amène à Tel Aviv, on dit, bon, monsieur, on vous croit. Mais dès qu'il y a une contestation, on considère sa parole comme zéro, et on va devoir aller chercher les deux témoins qui ont signé sur le guet à Jérusalem.
Et qui peut contester? La femme peut contester aussi.
La femme peut contester aussi, mais là, la femme, elle a accepté. Elle a dit, d'accord, oui, donc elle est divorcée. Pas de problème. Enfin, bon, si la femme accepte le guet, c'est que, bon, certainement, il y a eu des choses qui sont passées avant. Hein.
Mais en fait, dans un cas où elle accepte pas le divorce.
Alors,
elle est obligée.
Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y a pas, elle accepte pas. Elle est obligée. Seulement après, à l'époque de Rabbeinu Gershom, on a dit que la femme, il faut qu'elle soit d'accord, etc. Mais à l'époque de la Mishnah, elle n'est pas d'accord. D'accord. Et même si elle n'est pas d'accord, on le jette dans sa maison, dans l'endroit où elle se trouve, et on dit que la maison d'une personne est comme la personne, et c'est considéré comme si qu'elle a pris.
Un peu déformé
par
les temps modernes.
Alors ça c'est
Monsieur
Akoun.
Zach,
vous avez fait seul. Aussi des gâteaux, moi j'ai rajouté aussi dans le gâteau.
Zach, il n'est pas là pour qu'on remercie. On les mange dans la cuisine.
Qu'est-ce qu'elle a voulu que... Attends, non, on peut plus là, on est au café.
Oui, de toutes les façons, c'est déjà ça, elle n'est pas encore débarrassée. Bon, allez. Dinat Hayam. Ameviget Midinat Hayam, donc une personne qui amène un guet, Mdina Tayam, ça veut dire, comment il traduit ça, du pays, de l'autre côté de la mer, comment il traduit ça en...
D'outre-mer.
D'un pays étranger.
D'un pays étranger, bon, ça veut
c'est
dire...
C'est ouf, ça.
Mdina Tayam, littéralement, ça veut dire 4, là, le non pays... Non, je suis encore dans la Mishnah 3, la suite. Un pays derrière la mer.
Ils n'ont pas traduit, alors.
D'accord. Bon, ça veut dire un pays à l'étranger. Bon, alors écoutez bien le problème qu'on a maintenant. Imaginez-vous qu'on a quelqu'un qui amène un guet de New York. New York, donc c'est un pays qui est derrière la mer. C'est un pays qui est loin. Que bon. Et à l'époque, on n'avait pas le téléphone, au-delà des mers. Alors aujourd'hui, on a le téléphone, d'accord. Aujourd'hui, on a le téléphone, on peut faire une enquête. Mais à l'époque, on n'avait pas le téléphone, et on va pas demander au Beddin d'envoyer quelqu'un à New York, de faire un voyage Columbus avec la... Attends, on va pas non plus demander ça. Non. Donc il amène un guet de la mer, et il dit, donc il amène un guet, le problème c'est qu'il n'est pas capable de dire, il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi. Ça veut dire le shliach, il dit, écoutez, moi je sais pas, il n'a pas été écrit devant moi, il n'a pas été signé devant moi, mais il y a un monsieur, un mari qui m'a donné un guet et qui m'a dit, voilà, vous l'amenez à ma femme qui est à Paris. On dit, mais monsieur, il n'a pas été écrit devant vous, le guet, il n'a pas été signé devant vous? Il dit, non, il n'a pas été écrit devant moi, il n'a pas été signé devant moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il est à New York maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous dit la Mishnah, Im Yashalav Edi Mitkayem Bechotmav. S'il y a des témoins sur le guet, ça veut dire que si les témoins ont signé sur le guet, ce qui n'est pas forcément le cas, ils ne sont pas obligés de signer sur le guet. Les témoins doivent être seulement un témoin visuel de ce qui s'est passé, mais ils sont pas obligés d'être témoins sur le guet. Donc on dit, s'il y a des témoins qui ont signé sur le guet et qu'on a leur signature, il faut envoyer quelqu'un à New York pour aller faire une enquête. Et si on peut pas, eh bien on considère que si le guet est zéro, si le guet ne vaut pas. Parce qu'il faut bien comprendre ce que je veux dire ici. Tant que le guet n'a pas été donné dans les mains de la femme n'est pas divorcée. Même si le mari l'a donné. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Le Beddin va être intelligent ici. D'accord? Le Beddin va être intelligent. Il va essayer de voir, est-ce qu'on a un moyen d'avoir un contact avec ces témoins qui ont signé sur le guet? Peut-être c'est des gens qui font un voyage à New York, etc. S'il n'y en a pas moyen, le Beddin ne donne pas le guet à la femme, il déchire. Comme il déchire, la femme n'a jamais reçu le guet, donc la femme reste mariée.
Ah, ça paraît logique.
Ouais, bah oui, ça paraît logique, mais ça veut dire que là, en vérité, dans cette Mishnah, on demande au Beddin d'être acham, d'être intelligent.
Et il prévient la femme ou pas, le Beddin?
Bien sûr. Bien. Écoutez, votre mari voulait vous divorcer, mais on ne va pas vous divorcer. Bien sûr.
Donc vous êtes
pas libre.
C'est un problème, si le mari derrière il se marie,
mais dis-moi.
Il se marie, pourtant sa femme était divorcée.
Le mari, il peut se marier, il n'y a pas de problème. Il peut se remarier. À l'époque, la Mishnah, on pouvait se marier avec 10 femmes.
Si le mari peut envoyer un chaliar, la femme, elle peut envoyer une shticha.
Bien, la raison de ce bismuth,
c'est une autre technique.
On va voir après, c'est une autre technique ça aussi. C'est que si la femme a les moyens à New York, elle peut envoyer quelqu'un, elle peut envoyer un shliach, donc de sa part, à Paris, pour recevoir le guet du mari. D'accord? Donc là, le shliach se présente au Beddin, dit écoutez, vous avez fait sortir un guet de chez vous, mais bon, il y a eu un problème, alors est-ce que vous pouvez le refaire? Et donc on appellera le mari, il refera. Certes, c'est valable. D'accord?
Right.
Echad Gite Nashim ve Echad Shichura Avadim, donc Mishnah Dalet. Mishnah Dalet, on va parler d'un cas un peu différent. On va parler des Get Shichur. Alors, il faut savoir que comme j'ai dit dans l'introduction de la première Mishnah, Get en hébreu, ça ne veut pas forcément dire acte de divorce. Get en hébreu, ça veut dire contrat. Et c'est pour ça qu'à l'époque de la Mishnah, on avait des contrats de divorce, des contrats d'acquisition, des...
Get.
Oui, mais on pouvait dire get aussi. C'est un terme qui était... Donc get, ça voulait dire les deux. Bon, mais c'est vrai qu'à l'époque de la Mishnah, on a commencé à appeler le mot... On a commencé à spécifier le mot get pour les actes de divorce.
Parce qu'on a regardé de plus près.
Il y a quand même...
On get.
Écoutez bien, il y a quand même un autre contrat pour lequel on a gardé le mot get. Bien qu'à la base, le mot get veut dire contrat. Mais bon, on s'est dit, bon, ça, on va le garder pour l'acte de divorce. Il y a quand même une exception, un cas pour lequel on a gardé le mot get. C'est quoi? C'est quand quelqu'un veut libérer son esclave. Il a un esclave.
Licenciement.
D'accord? Il a un esclave. Donc un esclave a priori qui est un esclave qui n'est pas juif. Et vous savez très bien que l'esclave, quand un esclave pas juif, quand il devient esclave, il prend toutes les halakhot, toutes les lois d'une femme. Il devient comme une femme juive, donc il a toutes les lois d'une femme. Et il a envie de le libérer. Il ne le libère pas comme ça, c'est pas il dit bon monsieur dehors. Il faut écrire un contrat. Il faut écrire un guet. Ah, bien sûr, hein, j'en ai pas en train ici de faire de. J'attends la question de dire quoi, les femmes et les esclaves c'est la même chose. Non, bon, mais c'est. Il faut un contrat. Donc Echad Gite Nashim
de protection
civile. Echad Gite Nashim v'Echad Shichurei Avadim. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Que ça soit un guet d'une femme, c'est-à-dire que ce soit qu'on veut divorcer une femme. V'Echad Shichurei Avadim, et que ça soit que le Shichurei Avadim, ça veut dire les si quelqu'un veut libérer son esclave, Shavu, Lamolir, Velamevi. Ils sont égaux, donc les halachot sont les mêmes, l'amolir ou l'amévi, ça veut dire pour celui qui l'amène, d'accord? Enfin, comment il traduit ça? L'amolir, velamévi, ça veut dire pour celui qui le fait envoyer, et pour celui qui le fait apporter. Ça veut dire en d'autres termes, ou bien pour le mari qui le fait envoyer, ou bien pour la femme qui le fait apporter. C'est valable pour les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les halachot qu'on a dit pour le guet de la femme vont s'appliquer pour un guet, pour un acte de divorce. Pour un acte de libération d'un esclave. C'est la même chose. Juridiquement, c'est la même chose. Vezo achat minadrachin, sheshavu, gite nashim, le shichurei avadim. Et ça, c'est une des choses, d'accord? C'est une des choses dans lesquelles on voit que le guet d'une femme et la libération d'un esclave sont les mêmes. Comme on va développer tout de suite dans la Mishnah 5. Ça veut dire qu'en vérité, on va comprendre que divorcer une femme et libérer un esclave, juridiquement, c'est la même chose. Parce que c'est vrai que dans la théorie, c'est la même chose. Quand on divorce une femme, ça veut dire que j'avais une femme qui m'était soumise, elle ne me sera plus soumise. L'esclave, c'est la même chose. J'avais un esclave qui m'était soumis, il ne sera plus soumis. Juridiquement, c'est la même chose. Bien sûr qu'après, dans notre tête, c'est pas la même chose, mais juridiquement, c'est la même chose.
Donc là, la croix, c'est la même chose. Est-ce que l'homme a les mêmes devoirs envers l'esclave qu'il en a envers sa femme?
Certainement. Bien sûr. Ça s'est écrit dans la Mishnah...
Il fait beaucoup de kavod à l'esclave, le mec.
Trop de mort,
bon. Il donner son lit,
c'est ça. J'ai oublié dans quelle Mishnah c'est.
s'il est blessé, etc., doit l'indemniser. Enfin, il y a des
règles. Si c'est Baba Metsia ou Baba Kama, je... Bon. En tout cas, c'est la Mishnah nous explique que le kavod de l'esclave passe avant son propre kavod. D'accord ? Certainement, moi j'ai un doute. Hein,
la dignité.
C'est que, et c'est pour ça qu'on nous dit que si par exemple, comme a dit M. Daniel, si on arrive dans une auberge et qu'il y a un seul lit, donc c'est ou l'esclave ou moi qui dort, qui c'est qui doit dormir ? L'esclave. L'esclave doit dormir sur le lit. Même l'esclave goy. Il doit dormir sur le lit et moi je dors par terre. Moi je dors par terre. Autant chercher une autre auberge, hein, parce que bon.
Mais parce qu'il y a des tueurs.
Alors, Mishnahé. Kol get sheyesh alav et kuti. Donc voilà encore un point qu'on va dire. D'accord.
Une petite pub au passage.
Alors, voilà encore un point sur lequel on va dire que les actes de divorce et les actes de libération sont ont un point commun. C'est Kol get sheyesh alav et kuti pasoul. De manière générale, tout contrat, là vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que get ça veut dire contrat. Là on voit dans cette Mishnah. Kol get, tout contrat, sheyesh alav et kuti, qui a dessus un témoin qui est kuti. Donc kuti, ça veut dire un témoin qui est QT1. Ça veut dire, comme on avait expliqué les QT1.
C'est pas un gros mot.
Alors, on avait expliqué que c'était un peuple qui avait eu une fausse conversion. D'accord ? Alors qu'il y avait eu une fausse conversion. Donc, ils se sont convertis, mais après on a découvert qu'en vérité c'était une conversion qui était bidon, qui était pas valable. Donc, depuis, les Chachamim m'ont dit, on n'a plus le droit de se marier avec un QT1. Et ils doivent se marier entre eux. Donc tout guet, tout contrat sur lequel il y a un des deux témoins qui est signé dessus est un témoin QT1. Bien entendu, pas soul. Le guet, le contrat est pas soul. On considère que c'est pas un bon.
Il
est pas soul, il est en bonne santé. il est pas soul, d'accord. Chutz migit nashim veshichurei avadi. Sauf, écoutez bien ce qu'on dit ici. Sauf git nashim veshichurei avadim. Sauf s'il s'agit d'un guet d'une femme ou d'un contrat pour libérer un esclave, que là dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que même si un des deux témoins est Kuti et QT1, le contrat est valable. Donc là vous avez vu, on a un exemple de notre Mishnah. J'ai dit tout get sauf ces deux gitim là, ça veut dire qu'à l'époque de la Mishnah, le mot get voulait dire contrat en général. Vous voyez, on a une preuve là. Donc tout contrat sur lequel j'ai un témoin QT1, normalement il n'est pas valable, sauf le get d'une femme. Et Shichurei Avadim, donc sauf pour divorcer une femme et pour libérer un esclave, que là, un QT1 est valable.
C'est même surprenant, parce qu'on dit que le guet, c'est très...
Réglementé.
Oui, très important.
Alors, très bonne question. La Gemara explique comme ça.
Si elle est mal divorcée, après ça va engendrer...
Bonne question ce que vous posez. La Gemara explique comme ça. La Gemara explique qu'en vérité, normalement, dans tous les guets, normalement, dans tous les contrats, on aurait dû accepter normalement un contrat d'un QT1. Seulement quoi, c'est quoi le problème? On considère que c'est possible que les QT1, hein, des fois pour nous embêter comme ça, ils vont en signer alors qu'en vérité ils n'ont jamais vu ce qui s'est passé. Mais comme la libération d'un esclave et le divorce d'une femme sont deux choses très sérieuses, parce qu'un esclave, une fois qu'il est libéré, il peut se marier avec n'importe qui. Alors que sinon il ne peut pas se marier, donc c'est très sérieux, on s'amuse pas avec ça. Donc on considère que si le QT1 est signé dessus, on considère que le bezin qui est derrière, c'est assuré que tout est ok. C'est pour ça qu'on fait confiance. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en vérité, normalement, on aurait dû toujours faire confiance. Mais on ne fait pas confiance toujours parce qu'on dit des fois, qui nous dit qu'il y a un bezin derrière, des fois il n'y a pas de bezin derrière. C'est pas dans tous les contrats qu'il y a un bezin derrière. Et si je fais une transaction avec M. Bismuth, il n'y a pas forcément un bezin derrière. On va prendre un témoin QT1, peut-être c'est du pipeau. C'est pour ça qu'on dit en général on n'accepte pas. Témoin QT1, on n'accepte pas. Le seul cas dans lequel on accepte, c'est dans ces deux cas sérieux qui sont Guide et Nashim et Shichura Vadim pour le divorce d'une femme et pour la libération, l'affranchissement d'un esclave. Maasé, la lacha comme ça ? Pas de marloquette. Maasé.
On commence à savoir que quelqu'un est QT1. C'est ça, même à l'époque de la Mishnah, c'est connu.
C'est parce que il y avait des. Si l'autre témoin qui est à côté vient nous dire, écoutez, vous savez, le deuxième témoin qui était avec moi, il était QT1. Et vous avez raison que si...
Ils ont peut-être une tenue, un signe distinctif...
Il n'est pas là, le témoin. Il est signé. Il est signé dessus.
Oui, mais c'est lui-même le QT1 qui amène.
Non. Ah non.
Bah si. Il signe pas, je suis QT1, je signe, tac, non.
Et tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas.
Il a une réputation de QT1, mais...
Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas.
D'accord, ça peut être un juif qui apporte...
On a une... on va expliquer après dans la Mishnah qu'on a un principe de chazaka, de présomption. C'est-à-dire que nous, quand on a deux témoins qui sont signés sur le guet, on a une présomption que c'est des bons témoins, des témoins cachers. Bien que c'est peut-être pas des témoins cachers, peut-être même qu'ils sont pas juifs. Ça veut rien dire, on sait pas, peut-être qu'ils sont pas juifs. Ouais. On a une présomption qu'ils sont bons. Donc là, on parle que
quelqu'un les a
que quelqu'un les a reconnus, voilà, que quelqu'un les a reconnus comme un comme étant ce qui. Maasé chez Viou, l'ifné rabbin Gamliel, l'ifarotnaï, get isha, pardon. Donc il y a eu une histoire qui s'est passée.
Mais Réla, pourquoi ils n'ont pas exclu à partir du moment où il y a un doute sur la.
Parce que le problème avec le QT1, c'est qu'ils ont été convertis.
Sur la leur authenticité, alors à ce moment-là,
non,
alors, on tranche en disant.
Le problème avec les QT1, comme je suis en train d'expliquer, c'est que les QT1 ont été convertis. Ils sont trempés au MIGV, ils ont eu une bonne conversion. D'accord. Donc du coup, s'ils sont convertis, c'est fini. La conversion est bonne. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Imaginez-vous. Non.
Alors,
regardez, je vous donne un exemple. Un exemple qui est d'actualité. Imaginez-vous que quelqu'un se convertit. Quelqu'un se convertit au judaïsme. On lui pose la question quand il se convertit. On lui dit, est-ce que vous êtes prêt à accepter les 613 lois? Il dit oui, je suis prêt à accepter les 613 lois. Il se trempe au MIGV, etc. Quelques mois plus tard, on aperçoit qu'il a tout lâché. On s'aperçoit qu'il a tout lâché.
Il est toujours vu.
Est-ce que ça invalide sa déclaration? Qu'est-ce que vous dites?
Ah non.
C'est engagé.
Ça, aujourd'hui, c'est pas si simple.
Il a fait une vraie conversion.
Il a fait une vraie conversion.
Il a eu sa nefesh qui est arrivé, quand je vais au coin miné.
Très bien.
Donc,
très bien. Mais nous, la condition quand on se convertit, c'est qu'il faut accepter les 613 lois. Donc il accepte les 613 lois. Et disons que, voilà, une semaine plus tard, il lâche tout.
Ou 5 ans.
Disons, même 5 ans plus tard, il lâche tout. Est-ce que ça voudrait dire que ça invalide sa conversion?
Non.
Alors sachez qu'il y en a qui pensent que oui. Sachez qu'il y en a qui pensent que ça invalide la conversion. Avec tout ce que ça peut engendrer.
Il peut faire tchouva.
D'accord. Bon. Ouais. Mais ça veut dire que la conversion n'était pas bonne. Il peut faire tchouva, il pourra se reconvertir s'il veut.
Qui pense que c'est bon?
Beaucoup.
Aujourd'hui?
Ouais. Il y a beaucoup qui pensent que c'est pour ça qu'on dit aux gens qui sont convertis, on leur dit de faire spécialement attention de garder la Torah. Parce que s'ils ne gardent pas la Torah, selon certains avis, ça pourrait invalider. La halakha n'est pas comme ça, certes. D'accord. Mais il faut savoir que ça existe. C'était le problème des QT1. Ouais. Le problème des QT1, c'est que ils sont venus par ruse, ils se sont convertis, on a accepté leur conversion. Et après, on a découvert ce qui est du pipeau. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont convertis, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, on ne peut plus reprendre la conversion. Mais d'un autre côté, ils nous ont montré que c'est du pipeau. Donc est-ce que, voilà, la question était, et ils n'arrêtaient pas de se moquer de nous après.
Comment on est arrivé à convertir
C'était rapide avant
de convertir.
Selon le Tanakh, c'est un Yoshua qui arrive dans la vie.
Bien sûr, pour convertir. Ils sont convertis.
Mais de là à convertir tout un peuple.
Ils sont venus, ils ont dit on veut se convertir. On est intéressé, on aime bien le judaïsme. Ils sont venus, un peuple, ils nous ont arnaqué. Nous on les a testés, on a vu qu'apparemment ils étaient sincères. On a dit bon, ok, on vous convertit. Vous voulez vous convertir? Ils sont venus en peuple, on les a convertis. Le problème après, c'est qu'après ils se sont mis à se moquer de nous.
On vous a bien eu.
D'accord. Et bien entendu, ils n'accomplissaient pas la Torah. La question qui s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont juifs, ils restent juifs, on peut plus rien faire.
Mais
les Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on les excommunie, ça veut dire on se marie pas avec eux. Ah oui, parce qu'ils nous ont arnaqué, on ne sait pas quels enfants vont sortir de ça. Donc c'est ça le problème qu'on a ici. C'est pour ça que le témoin Kouti, comprenez que quand on a un témoin, quand on a des gens comme ça qu'on sait qu'ils sont en train de se moquer de nous constamment, quand on a un témoin comme ça qui est signé sur un contrat, on se pose des questions. On se dit, va savoir, est-ce qu'il n'est pas parti me chercher un problème ou c'est pas quoi. Donc on ne fait pas confiance. Le seul cas dans lequel on fait confiance, c'est dans les deux cas ici, dans lesquels il y a l'aval d'un Bedin par derrière, que là on dit, si le Bedin a donné son aval, c'est que certainement ils sont assurés que le témoin est un bon témoin. Et que celui-là, c'est peut-être un bon Kouti. Peut-être lui, c'est un bon cutin, il a fait teshuva, va savoir. Ah oui. Donc, Maasé, chez Viu, le finir à Ben Gamliel et Kfarotnaï, je finis avec ça.
Alors, il a viré.
Il y a une histoire qui s'est passée, qu'on a amené devant Rabban Gamliel, l'Ikfarotnaï, donc dans le village de Otnaï, Getisha, on a amené un Get. Veayu et Dav Edekutim. Et là, c'est pas un témoin qui était cutin, les deux témoins qui étaient cutin. Vous me direz, attends, il faut rien, ton Get, tu mets à la poubelle.
Il le déclare.
Eh ben, écoutez bien, Veirchir, il a rendu cachère. Il a rendu cachère le guet, il a dit le guet est cachère, la femme peut divorcer avec ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lui considère que pour le guet, on accepte les témoins QT1. Kol Ashtarot Aolim Berkot Shel Goyim, puisqu'on a parlé déjà des contrats. On le dit comme ça. Kol Ashtarot Aolim Berkot Shel Goyim, tous les contrats qui peuvent être amenés, les Arkot Shel Goyim, ça veut dire au Beddin, donc au tribunaux Goy. Par exemple, d'accord, aujourd'hui, tout ce qui est commerce, etc., on n'amène pas au Bedin juif en général, on amène au Bedin goy. C'est eux qui ont le pouvoir de valider une transaction. D'accord? Quand quelqu'un veut valider une transaction, il n'amène pas chez un goy, il amène chez un juif. Il amène au tribunal des goyim. Afalpi sur Khotmiem goyim, kshérim. Même si les signataires sont goy, le contrat est kasher. C'est-à-dire, imaginons par exemple que on est en France et que donc on fait une transaction et que on fait une transaction, donc on l'amène chez le Beit Din des Goyim. Imaginez-vous qu'il y a un retournement de situation, le peuple juif reprend le dessus en France et que maintenant le Beit Din en France devient juif. Donc le gars il dit, ben écoutez, on lui demande, est-ce que vous avez une preuve que cette maison vous appartient? Il dit, oui, j'ai un contrat. Qui a signé sur ce contrat? Il dit, ben voilà, ce contrat, il a été fait par le tribunal de Paris, tribunal d'instance de Paris, oui, et qui a signé dessus? Des Goyim. D'accord? Des Goyim, ils ont signé. Père. Les témoins, c'est des Goyim. Est-ce que le contrat est valable?
Oui.
Oui. Parce que puisque c'est un contrat qui pouvait passer par les tribunaux Goy, les témoins peuvent être aussi Goy. Routes, à l'exception de Guit et Nashim Veshichouré Avadim. Sauf, bien entendu, Guit et Nashim Veshichouré Avadim, sauf un guet d'une femme, d'accord, donc le divorce et l'affranchissement des esclaves. Rabbi Shimon Omar, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Shimon, mais la halakha n'est pas comme lui, hein, je vous dis quand même. Af Elouk Sherim. Rabbi Shimon, il dit, même un guet d'une femme qui aurait été fait dans un tribunal goy, même un guet d'une femme qui aurait été fait dans un tribunal goy. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de tribunal juif, et quelqu'un il va divorcer sa femme
il
dans un tribunal goy.
Il nous sauve grave, là, celui-là.
Et voilà, oui, écoutez bien ce qu'il dit.
Il nous sauve grave.
Af Elouk Sherim. Même ceux-là sont cachers. Lo uskeru ela bizman shenaasu ba'ediot. On dit que, lui, il dit, dans quel cas on a dit que les tribunaux goy sont pas cachers pour le divorce, c'est seulement s'ils ont été faits par un tribunal ba'ediot, ça veut dire un tribunal qui n'est pas sérieux. Mais si c'est un tribunal sérieux, selon Rabbi Shimon, même un tribunal goy qui émet un acte de divorce, l'acte de divorce est cachère.
C'est vachement
comment à l'époque un tribunal pouvait ne pas être sérieux?
Non, parce que des fois on peut avoir un tribunal qui est plaisantin, c'est-à-dire que bon, peut-être on les a payés pour divorcer, etc. Alors on va savoir. Là, par exemple, le tribunal de Paris, on sait que c'est un tribunal sérieux. Selon Rabbi Shimon, tribunal de Paris qui émet un acte de divorce, témoin goy, l'acte de divorce c'est bon.
Même si le tribunal, donc
mairie de Paris, d'accord, quelqu'un qui va à mairie de Paris qui fait un acte de divorce, selon Rabbi Shimon, l'acte de divorce c'est bon. La femme est divorcée.
Aujourd'hui, qu'on sait,
la femme n'est pas comme lui.
Comment on sait la façon dont les dirigeants se comportent avec toute la...
Bon, mais on sait aujourd'hui que l'acte de divorce à la mairie de Paris est sérieux. C'est sérieux, ça veut dire qu'on fait des enquêtes, on fait des recherches. Selon Rabbi Shimon, ça aurait été bon.
Non, sûr, hein. Il y a encore des cas de...
Selon Rabbi Shimon, ça aurait été bon. Mais la halakha n'a jamais été comme lui, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, peut-être que quand Mashiach reviendra, il dira que bon, tous ceux qui ont été divorcés à la Rabbi Shimon, on les accepte. Va savoir. On a des tas de gens comme ça qui ont été divorcés. Ouais,
qui sont vivement, pas faits de guet religieux.
Ça nous enlèverait.
Selon Rabbi Shimon, ça serait un bon guet. Mais bon, la halakha n'est pas comme lui. C'est intéressant parce que selon Rabbi Shimon, si c'est un acte sérieux, d'accord, et que donc c'est un tribunal sérieux et que c'est le tribunal du pays, on accepte et c'est cachard.
Pourquoi la Mishnah ne dit pas tout de suite que l'avis de Rabbi Shimon n'est pas autorisé? Elle ne dit pas, non.
Ça, c'est pas écrit, non, il a raison.
Ça arrive tout de suite un doute.
Parce qu'à l'époque de...
Il faut avoir la relation, il faut savoir qu'ailleurs, ce qu'on dit contraire, tu comprends?
Parce que dans la ville de Rabbi Shimon, on faisait comme Rabbi Shimon.
Ah oui, d'accord.
Vous comprenez?
Il y avait des décisions locales.
Mais nous, après qu'on est venu par la suite, les Chachamim ont dit non,
Rabbi Shimon... Dans la ville de Rabbi Shimon, il n'y avait pas de tribunal goy.
Dans la ville de Rabbi Shimon, on acceptait aussi les actes de divorce qui étaient faits dans un tribunal goy.
On va dire civil, quoi.
Ah oui, civil. Ouais. Ah oui, mais c'est chaud ce qu'on est en train de dire.
Oui, même s'ils ne respectent pas la formation du divorce...
Non, ce qui compte, c'est que... Ils sont divorcés, en bonne et due forme.
Mais ça n'a pas été écrit et signé devant des témoins et que les témoins...
Si, il faut deux témoins.
Quand même.
Ah oui, il faut deux témoins. Il faut deux témoins, il faut qu'on sache qu'il y ait deux témoins et que donc il y a eu le mari et la femme.
Il y a eu un vrai divorce.
Ça, même s'il y a eu le mari qui a donné procuration, non, aujourd'hui Schliar, ça aurait été procuration, ouais, d'accord, ouais. C'est cachère.
D'accord.
Pour Rabbi Shimon, c'est cachère.
Mais il faut quand même respecter, disons, la forme juive.
Non.
Il faut deux témoins et...
Voilà, la seule chose qu'il faut respecter, deux témoins, et que le mari donne à la femme. C'est tout.
Il y a deux témoins pour le mariage. Donc la normale, c'est qu'il faudrait deux témoins.
Il faut un acte, on avait expliqué dans l'introduction de la première Mishnah, il faut que dans l'acte, on écrit clairement que j'ai plus rien à faire avec cette femme. C'est le cas dans les actes de divorce goy.
Et que je l'ai dédommagé.
Je sais pas comment c'est écrit dans les actes de divorce goy. On dit bien que j'ai plus rien à faire avec cette femme, non?
On dit pas exactement comme ça, mais moi
j'ai... Le mot divorce veut dire que c'est fini, j'ai plus rien à faire avec toi. Il y a deux témoins qui...
Oublie la rupture.
Il y a deux témoins chez les goyim aujourd'hui? Il faut deux témoins pour un acte de divorce?
Non, je ne sais pas. Franchement, je sais. Seulement pour les mariages.
Ah.
Mais il y a un banc.
Bon, alors s'il y a deux témoins, ça serait cachère, selon Rabbi Shimon. Voilà.
Et quand tu lui donnes le guet, tu lui dis « Get out !»